Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Amen. Et moi, je suis petit. Amen. Dieu est grand, je suis petit. Il vit pour toujours. Amen. Ma vie, c'est qu'un instant. Même si j'ai déjà vécu 61 ans, j'ai l'impression qu'hier, j'étais encore, je croyais au Père Noël. Ça passe vite. Lui, il demeure pour l'éternité. J'étais à l'école, j'ai vécu ces quelques années, je lis les journaux, je me connecte à Internet, j'ai plein de savoirs à ma disposition, mais je ne sais rien du tout. Amen. Ah bon? Lui, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Le présent, le passé, le futur, toutes les langues. Les secrets des maths, les secrets des sciences. Ce qui va nous arriver, il sait tout. Lui, il est fort. Amen. Moi, je suis fort par rapport à Nancy. Mais je suis tout faible. Et on se dit, bien sûr, c'est normal, quand on pense à Dieu et qu'on voit qui il est, et quand on se regarde soi-même, quand je me regarde, je dis, on n'est pas dans la même catégorie. Et on se dit, c'est donc pas étonnant que je me sente séparé de Dieu. Mais toutes ces raisons, même si ce sont des faits réels, qu'il est grand, que je suis petit, qu'il vit pour toujours, que je ne vis qu'un instant, qu'il sait tout, que je sais pratiquement rien, qu'il est fort et que je suis faible, c'est pas la raison pour laquelle je suis séparé de Dieu. Lisons ensemble, nous allons voir ce qui nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités, nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité. Ils se fient à du vide et disent des non-sens, ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ils font éclore des œufs d'aspic, c'est-à-dire de serpents, et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt, et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est dans ce chapitre du prophète Ésaïe, qu'en fait on a la révélation que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est pas la différence de taille, c'est pas la différence de puissance, c'est pas la différence de longévité, c'est pas la différence de savoir, c'est notre péché, ce sont nos fautes, nos iniquités. Et il se passait ce qui se passe souvent aujourd'hui, des gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières quand on souffre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles qu'on entend autour de nous, c'est catastrophe sur catastrophe. Il y avait même une plaisanterie un peu cruelle, mais qui dépeint un peu ce sentiment qu'on a. C'était un dessin humoristique paru la semaine dernière ou il y a quelques semaines, et c'était un rescapé des inondations en Vendée qui avait était dans l'eau des inondations jusqu'à la ceinture et qui demandait « Est-ce que je pourrais récupérer mon chèque pour Haïti ?» C'est cruel et en même temps c'est un peu le sentiment qu'on a. On a l'impression qu'on aide à Haïti, puis maintenant ça tombe ici, et puis maintenant il y a un tremblement de terre au Chili qui est le plus violent qui ait jamais frappé la terre ou une population habitée. Et il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Dieu nous explique que cette souffrance, elle est issue du péché déjà. Le mal est entré, la création est affectée par le péché parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Et lorsque nous prions, lorsque nous demandons l'aide de Dieu, nous avons l'impression qu'il ne répond pas. Et comme les gens de cette époque disaient, il n'est pas capable de nous aider. Sa main est devenue trop courte. C'est une façon imagée de dire qu'il n'a pas la puissance. Ou alors l'autre explication, devant son silence à nos prières, à nos requêtes, quand on demande de l'aide dans les crises qui nous tombent dessus, c'est que les gens se disent peut-être qu'il n'entend pas. C'est vrai que mes petits problèmes, quand il y a les problèmes au Chili, quand il y a les problèmes au Japon, quand il y a les problèmes à Haïti, quand il y a les problèmes en Vendée, ils vont descendre dans la liste de priorités et c'est comme si il entend que ceux qui crient le plus fort. Et Esaïe leur dit non, pas du tout. Dieu n'a pas changé, il entend, il est puissant, mais il a un problème avec vous, c'est que vous adonnez au péché. Et là, il décrit, et entre parenthèses, c'est vraiment un problème fondamental, c'est la théologie pratique. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et tous nous sommes confrontés à ça. Que ce soit avec la perte d'un être cher, la maladie, les difficultés, les accidents qui peuvent arriver. Il y a un auteur américain, un rabbin, qui a fait un malheur en vendant un livre qui s'appelait Quand de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Et il a vendu des millions de copies de ce livre. Et son point de vue, c'était qu'en fait, Dieu est amour, mais il n'est pas puissant. Il n'est pas assez puissant. Il est bon, mais c'est pas lui qui dirige les choses. Et quand il y a des mauvaises choses qui arrivent à de bonnes personnes, c'est en fait parce qu'il a perdu le contrôle des choses. Et cet auteur disait qu'il fallait apprendre à aimer Dieu et à le pardonner malgré ses limitations. On admire la restreinte de Dieu pour pas zapper de tels propos en réduisant en tas de cendres instantanément la personne qui décrit un Dieu qui n'est certes pas le Dieu de la Bible. Non, la Bible nous explique que Dieu est sur le trône, Dieu est puissant, mais qu'il y a un problème, et ce problème, c'est notre péché. C'est de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, mais notre propre volonté. Et là, il décrit à partir du verset 3 les péchés auxquels se livre l'homme. Comment est-ce que le péché nous sépare de Dieu? On sait que le péché ne peut pas nous séparer de la présence de Dieu. Vous connaissez le psaume 139 qui dit que même, le psalmiste dit que même s'il allait au bout de la terre, là Dieu s'y trouve. Dieu est présent partout. Satan, on voit dans le livre de Job, peut même avoir une audience avec Dieu. Dieu, on va pas perdre sa présence. Dieu va être présent. Une chose importante qu'il faut savoir aussi, c'est que le péché ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Ça peut être une révélation pour certains, mais il est dit clairement dans la Bible, dans Romains notamment, Romains 5:8, que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Dieu a tant aimé le monde, tous les hommes, toutes les femmes, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu guérir les malades. Ceux qui se disent, qui se reconnaissent pécheurs, ceux qui reconnaissent qu'ils ont soif de changement, de quelque chose d'autre. Le péché ne nous sépare pas de la présence de Dieu, le péché ne nous sépare pas de l'amour de Dieu, mais le péché nous sépare de la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est sans doute la chose la plus précieuse qui soit. Je traduisais un des méditations quotidiennes du pasteur Chuck, qui est à l'origine du mouvement de Calvary Chapel, il y a quelques jours, et il disait, je crois que c'est peut-être même le texte d'aujourd'hui, qui disait qu'en fait, la seule chose qu'on doive convoiter sur terre, c'est une relation plus intime avec Dieu. C'est la seule chose qui doit nous motiver, avoir une relation plus intime avec lui. Et quand on reste dans le péché, qu'on vit dans le péché, qu'on ne confesse pas notre péché en faisant tout pour ne pas retomber dans le péché, en demandant l'aide de Dieu pour nous aider à éviter le péché, alors ça veut dire qu'en fait, on ne pense plus comme Dieu. Ce qui... Eh bien, nous l'appelons mal. Ce qui est mal, nous l'appelons bien. Ça, c'était le prophète Ésaïe qui le disait dans Ésaïe 5:20. Une autre chose qui résulte de ce péché, une autre séparation, c'est la séparation des bénédictions de Dieu. Alors là, c'est important de comprendre que ces bénédictions ne sont pas conditionnées par notre obéissance au commandement de Dieu. C'est la définition de la grâce, c'est recevoir des bénédictions qu'on ne mérite pas. Mais du moment où on pêche, on s'oppose à Dieu en péchant, c'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord avec lui, on ne peut pas avoir cette foi qui permet de recevoir ces bénédictions. La loi a été remplacée par la foi. La foi, ça veut dire, oui, je crois que Dieu va bénir, je crois ce que Dieu dit est vrai. Et lorsque je pêche, je ne suis plus d'accord avec Dieu, je n'ai plus la foi dans ce qu'il me dit, je n'ai plus la foi en Dieu. Et donc, je ne suis plus à même de recevoir les bénédictions. Le péché nous sépare aussi des bienfaits, des bénéfices de l'amour de Dieu. Un exemple flagrant, c'est le fils prodigue, qui était, vous vous souvenez de l'histoire, il avait quitté son père, il avait demandé tout de suite à avoir l'héritage qui devait lui revenir de la part de son père, et il était parti dépenser tout cet argent en faisant la fête. Très rapidement, il avait épuisé ses ressources. Il était tombé au point où il devait garder des cochons et manger la nourriture des cochons pour survivre. Puis à un moment, il s'était repris, Dieu lui avait parlé, et il avait dit « Je vais retourner chez mon père ». Et il revient chez son père, on voit que son père l'attendait tout ce temps. Il venait chaque matin scruter l'horizon et la route, voir si son fils bien-aimé n'allait pas revenir. Et ça, c'est un exemple de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, même lorsque nous nous séparons de lui par nos péchés. Il nous regarde chaque matin, il regarde la route pour voir si Pierre, Paul ou Jacques vont revenir à lui. Mais pendant qu'il était dans cette séparation avec son père, il n'avait pas les bienfaits qu'il avait quand il était auprès de son père. Le respect, la considération, la nourriture, les vêtements, toutes ces choses-là, nous les perdons lorsque nous nous séparons de Dieu par nos péchés. Puis, un autre point ajouté par ce commentateur, c'est que le péché nous sépare de la protection de Dieu. Dans le sens où, pour nous reprendre, Dieu va être obligé d'autoriser l'ennemi, d'autoriser les choses à nous corriger. Il va permettre des épreuves. Toutes les épreuves ne sont pas des corrections, mais Dieu, parce qu'il nous aime trop, comme un bon père, va corriger ses enfants en laissant venir des épreuves. Et donc on voit que on a tendance à blâmer tous les problèmes sur Dieu au lieu de reconnaître que le problème, c'est moi. Et en France, on est passé maître dans l'art de rouspéter. C'est le gouvernement, c'est les élections, c'est les journalistes, c'est les étrangers, c'est les familles nombreuses, c'est les familles sans enfants, n'importe quoi. Tout est la raison de mes malheurs, sauf moi. Et je vous garantis, quand on commence à se prendre en charge, les choses vont mieux pour tout le monde. Vous vous souvenez du cri de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, Jésus avait pris sur lui tous les péchés. Et ces péchés le séparaient momentanément, c'était pas pour toujours, le séparer de Dieu le Père. C'est sans doute la chose la plus difficile, la plus incroyable. C'était pas nécessairement la souffrance physique, même si elle était horrible. D'autres hommes ont subi des souffrances similaires ou semblables, mais c'était cette séparation d'avec quelqu'un avec qui il avait vécu en parfaite communion toute l'éternité. Et donc, ce sont ces péchés qui nous séparent de Dieu. Il va dans la liste, les mains sont souillées de sang, c'est la violence. Il parle des mains, c'est un symbole de ce que nous faisons. Il parle des lèvres, c'est un symbole de ce que nous disons. Nous aimons la violence. Il suffit de voir le succès des films violents. Si un film n'a pas de violence, on appelle ça un film à l'eau de rose. Ça veut dire que c'est un film embêtant, dépourvu d'intérêt, un peu bébête. Ce qui vend, c'est pas le récit de la famille Lowen qui est partie se promener hier après-midi, j'imagine, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Non, c'est le meurtre qui s'est passé à tel endroit, c'est la violence qui a éclaté dans tel autre pays. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas allé? Non, je... C'était imaginaire. Ils disent des... Ils portent des jugements injustes. Il n'y a rien de plus frustrant, parce que Dieu l'a mis en nous, ce sentiment de justice, que de voir la justice qui est injuste. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. C'est des images d'obstétrique, pratiquement. La conception, c'est on manipule nos pensées, on essaye de trouver des façons de rouler les gens, d'opprimer. Et puis ça débouche, ça enfante l'injustice. Ils font, c'est comparer aussi leurs pensées, leur système à une toile d'araignée. C'est des pièges. Ils établissent des pièges. Mais ces toiles, elles peuvent pas leur servir de vêtements. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, verset 6. Et puis, ces pensées, ces réflexions, tout ça, ça débouche sur des actes. Des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre de sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. On parle de projet de paix en Israël, au Moyen-Orient, depuis des décennies, depuis des siècles même. Mais le chemin de la paix, ils peuvent pas, on peut pas le trouver. C'est le prince de la paix, Jésus lui-même, qui va ramener la paix à Israël. On va y revenir. Il n'y a pas de droit. Les sentiers, les voies tracées sont des sentiers tortueux et on ne connaît pas la paix. C'est intéressant que Paul, lorsque dans Romains 3, il va décrire la nature de pécheur de l'homme, il va justement prendre ces versets dans Romains 3, 15, pour regarder rapidement. Il prend plusieurs passages de l'Ancien Testament. Il explique que tous, autant que nous sommes des pécheurs, que nous soyons juifs, que nous soyons pas juifs, religieux, pas religieux, athées ou pas athées, il n'y a pas de juste. Verset 10, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis, ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, de serpent, le même mot que dans Ésaïe. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et verset 15, il reprend exactement les textes de Ésaïe 59. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est un autre passage, le psaume 36. Mais ça, on est au cœur du problème de l'homme et de Dieu. Nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et il continue, verset 9, « C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. » Remarquez que on est passé de « ils font ceci » à « ils font cela » à « nous ». Ça, c'est une des caractéristiques des grands hommes de Dieu, c'est qu'ils s'identifient avec le péché du peuple. Ils disent pas « vous vous comportez mal », ils s'associent parce qu'ils savent qu'en fait, il a les mêmes tendances au péché, le fait que les gens ne soient pas plus avancé sur le chemin de la moralité, c'est parce que lui ne fait pas son travail correctement, il s'associe. C'est pourquoi le droit reste loin de nous, la justice ne nous atteint pas, nous espérions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions le droit, mais rien. Le salut est loin, mais il est loin de nous. Car nos crimes sont nombreux devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos crimes sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Crimes et tromperies envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu, paroles de violence et de rébellion, paroles de mensonges conçus et murmurés dans le cœur. De sorte que, lorsque le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. Triste description de la société de l'époque, de la société humaine aujourd'hui encore, de l'homme sans Dieu. Si Dieu n'est pas dans l'équation, il n'y a pas de droit. Sur quoi est fondé le droit ? Si Dieu n'est pas là, on peut décréter n'importe quoi, décréter que si on a une certaine origine raciale, on n'a pas le droit de vivre. Ça a été fait. C'est fait encore. Si on n'a pas la même religion, on n'a pas le droit de vivre. C'est fait, c'était fait. Il n'y a pas de droit s'il n'y a pas de sentiment de Dieu. On ne peut pas concevoir un système juridique, un système de droit qui tienne la route si d'emblée on élimine Dieu. Ce n'est pas parce qu'on décrète par un vote que telle chose est bien qu'elle le devient. C'est pas parce qu'on vote que l'avortement est une question de liberté fondamentale pour la femme que l'avortement est une bonne chose. C'est pas parce qu'on décrète que l'homosexualité est simplement une autre façon de vivre que c'est quelque chose de bien devant l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ces aberrations de la morale, parce qu'on a rejeté Dieu. Nos péchés témoignent contre nous. Nous marchons dans l'obscurité. Nous sommes perdus. Les hommes politiques ne savent pas que faire. C'est pour ça, une élection, ça va d'un côté. D'autres élections, on dit, bon, il valait rien finalement. On va voter de l'autre côté. Il faut voter Jésus avec votre cœur. Ni Sarko, ni Sego ne vont apporter la solution. Je peux vous le garantir, vous le savez déjà. Jésus. Amen. La vérité trébuche sur la place publique. Si on essaye de s'éloigner du mal, si on essaye d'annoncer la vérité, on se fait piller, il est dit ici. On a des problèmes si on annonce la vraie moralité. C'est ce que disait Ésaïe 5:20. On appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Mais là, on aborde heureusement Dieu. Dieu intervient. Dieu merci. Verset 15, deuxième partie du verset 15. L'Éternel voit, il n'a pas une oreille trop courte, trop dure pour entendre, il n'a pas une main trop courte pour aider, et en plus il a une voix, il voit, il a des yeux pour voir, il voit tout. Il voit, il trouve mauvais que le droit n'existe plus. Parce qu'il sait que sans droit, l'homme ne peut pas vivre avec l'homme. Il voit, verset 16, qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut, il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite, la fureur à ses adversaires, à ses ennemis ce qu'il mérite, aux îles la rétribution qu'elles méritent. Les îles, c'est les païens au loin. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu voit la situation. Dieu est désolé de ce qu'il n'y ait pas un seul homme. À l'époque, encore une fois, c'était des prophéties sur le retour de l'exil à Babylone. Et là, on voit tout de suite qu'on est aussi dans les prophéties pour la fin des temps, pour les temps qui nous concernent maintenant et les temps du retour du Messie. On n'en trouve pas un qui soit prêt à prier. Dieu recherche une seule personne qui prierait, qui intercéderait vraiment. Mais Dieu nous aime tant qu'il décide d'intervenir lui-même. Son bras lui vient en aide, vous vous souvenez, la puissance de Dieu, sa justice lui sert d'appui. Et là, il s'habille de vêtements, la justice comme une cuirasse, le casque du salut sur sa tête, des vêtements de vengeance. Il s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. La jalousie, c'est pas le défaut, c'est le zèle pour ce qui est bien. Et il va venir rendre à chacun ce qu'il mérite. Ça, c'est la justice. Donner ce qu'on mérite, recevoir ce qu'on mérite. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. L'amende, la pénalité que je mérite, je ne la reçois pas. Et puis, il y a la grâce qui va au-delà où je reçois ce que je ne mérite pas. Mais là, il est question de Dieu qui vient rendre sa justice. Et vous vous souvenez, peut-être que certains, quand on parle de casque du salut, de la cuirasse de la justice, vous dites, mais j'ai entendu ça quelque part et pourtant j'ai jamais étudié Ésaïe 59, mais vous avez étudié Éphésiens 5, plutôt 6, Éphésiens 6. On parle souvent de la cuirasse de Dieu, de l'armure de Dieu, les armes de Dieu, verset 13 du chapitre 6 d'Éphésiens. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, la même expression, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En fait, lorsqu'il est question de... Dans Éphésiens, lorsque Paul nous dit de revêtir l'armure de Dieu ou les armes de Dieu, il connaissait Ésaïe 59 sur le bout des doigts, sur le bout des lèvres, il connaissait par cœur, et il savait que cette armure, en fait, c'était l'armure de Dieu, ce sont les armes de Dieu lui-même. Et lorsqu'on dit de mettre les armes de Dieu, ça veut dire qu'on met ses vêtements. Et Dieu va rendre à chacun sa juste récompense pour le mal, pour le péché, pour toutes les choses contraires à sa volonté qui sont faites. Et le résultat, ce sera que on va respecter le nom de Dieu depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. De l'Est à l'Ouest, on va respecter le nom de Dieu. On est souvent interpellé désagréablement un peu en colère au fond, j'espère beaucoup en colère au fond de nous-mêmes, lorsqu'on voit que on peut prendre le nom de Dieu dans les médias en vain, se moquer du Dieu de la Bible, sans que les médias s'excusent ou qu'il y ait des plaintes portées, alors que si on parle de Mohammed en mal, c'est la révolte. Les musulmans ont plus de respect pour le nom de Dieu que les chrétiens n'en ont pour le vrai Dieu. Mais c'est vrai qu'on a été habitué à ne pas réagir, pour pas faire de vagues, que si on nous insulte, on tend l'autre joue, hein, c'est bien ce qui est dit dans la parole. Un jour, le nom de Dieu, du vrai Dieu, va être respecté. Au nom de Jésus, tout genou s'abaissera et reconnaîtra que Jésus est Seigneur. L'adversaire viendra comme un fleuve. Satan va continuer ses attaques. Le fleuve, c'est ce qui est inexorable, c'est ce qui est puissant, c'est ce qui est large, c'est ce qui a beaucoup de ressources. Mais l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Il suffit que Dieu souffle pour que l'adversaire batte en retraite. Encore une fois, Dieu est d'une puissance inimaginable, d'une puissance sans rapport avec la puissance qu'on peut trouver dans sa création. Même la création de cet ange de lumière s'est rebellé contre Dieu, qui est notre ennemi, Satan. Verset 20, une merveilleuse prophétie. Encore une fois, on peut lire ces textes, surtout si on essaye de finir avant 8h30 pour prendre le bus ou partir au travail. Et tout ça, c'est des mots, c'est des termes. Oui, c'est joli, c'est rédempteur, l'éternel. Non, c'est de la réalité, ça. Le rédempteur qui vient pour Sion, pour Jérusalem, c'est la prophétie du Messie, c'est la prophétie de Jésus-Christ. Vous vous souvenez du terme rédempteur, c'est le Goël en hébreu. C'est le proche parent qui a les ressources pour racheter les personnes, la postérité ou les propriétés et qui a la volonté de le faire. Et ça, c'est, il n'y a qu'une personne qui correspond à ça. Jésus s'est fait notre frère, il est venu dans la race humaine. Jésus n'est pas le petit Jésus dans la crèche, mignon tout plein, mais qui n'a pas de puissance. Non, Jésus, c'est le lion de Juda qui peut rugir. C'est l'agneau de Dieu et le lion de Juda. Il est tout puissant. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut aider. Il veut racheter. Il veut être notre rédempteur. Mais encore une fois, pour être racheté, il faut en faire la demande, il faut le vouloir. Il faut être de ceux qui se détournent de leurs crimes. Ceux de Jacob, il est d'abord le rédempteur d'Israël. Verset 20, un rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes. Oracle de l'Éternel, quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, maintenant et à toujours. Une promesse de restauration, une promesse de l'arrivée de ce Messie, de Jésus-Christ, qui vient nous sauver, qui vient nous tirer, et c'est lui qui prend la punition que méritent nos péchés. C'est lui qui va être séparé, qui va accepter d'être séparé de la communion intime, des bénéfices de la bénédiction divine de Dieu le Père, par amour pour nous. Ça, c'est vraiment de la théologie de base. Le chapitre 59 d'Ésaïe, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Encore une fois, comme je disais pour commencer, c'est pas la différence de taille, c'est pas la différence de puissance, c'est pas la différence de ressources, c'est simplement mon péché. Et ce péché, si je le confesse, si je reconnais que ces mauvaises actions sont contraires à la volonté de Dieu, qu'elles méritent donc le nom de péché, si je les reconnais devant Dieu, et si besoin est devant les autres à qui j'ai fait du mal par ces péchés, alors je suis au bénéfice de ce pardon. Cette séparation est effacée. Cette barrière qui nous empêche d'avoir cette relation intime avec Dieu, elle est brisée, elle est détruite. Encore faut-il que je le désire. Dieu ne force pas la main. Il est le gentleman ultime. Pourquoi ? Parce qu'il veut que notre amour pour lui soit un amour véritable. Il ne veut pas mettre un pistolet derrière le dos pour qu'on lui dise « oui, je t'aime ». Il veut que notre amour, ce soit un amour qui vienne de du plus profond de notre cœur. Parce que cet amour-là, il veut se traduire par des actes. Il va se traduire par de la justice. Il va se traduire par de l'intercession. Il va se traduire par du bien pour tous ceux qui sont autour de nous.